Émile Gaboriau, Les comédiennes de Molière. Mademoiselle du Parc, 1853-1668. Jolie, bien faite, spirituelle, Mademoiselle du Parc excellait dans les deux genres. Elle jouait avec un égal succès les seconds rôles tragiques et comiques. Elle dansait aussi à ravir. Elle brillait au ballet du roi, dit Mademoiselle Poisson, surtout dans les danses hautes. Elle faisait certaines cabrioles remarquables, car on voyait ses jambes et une partie de ses cuisses par le moyen de sa jupe fendue des deux côtés avec des bas de soie attachés au haut d'une petite culotte. Le coup d'œil de ces cabrioles pouvait être fort agréable, mais la description ne laisse pas que d'être singulièrement grotesque. Heureusement, Mademoiselle du Parc a d'autres titres. Ainsi, elle joue avec le plus grand talent et une rare perfection l'Andromaque de Racine. Mademoiselle du Parc donnait des représentations à Lyon lorsqu'elle vit Molière pour la première fois. Elle repoussa les hommages du grand homme, séduit à première vue par sa beauté et son talent, mais elle consentit à partager sa fortune et le suivit à Paris lorsqu'il obtint l'autorisation de s'établir définitivement au Petit Bourbon en 1658. Elle ne tarda pas à être considérée comme une des meilleures actrices de la troupe. Molière avait en elle une grande confiance, aussi la complimente-t-il dans l'Impromptu de Versailles. Ses meilleures créations dans l'œuvre de l'auteur de Tartuffe sont celles de Cato, des Précieuses Ridicules, et d'Elvire, de Don Juan. Mais son triomphe fut toujours la Sinoé du misanthrope. Son mari, Duparc, plus connu au théâtre sous le nom de Gros René, avait fait partie de l'illustre théâtre. C'était le meilleur compagnon du monde, franc, serviable et ne manquant pas de talent. Molière, qui l'aimait et l'estimait beaucoup, la peine d'entrer dans le dépit amoureux, où, jouant le rôle de Gros René, il dit « Je suis un homme rond de toutes les manières ». Ses camarades avaient pour lui une telle affection, au dire des frères parfaits, qu'ils firent relâche lorsqu'il mourut en 1664. Devenue veuve, la Duparc fut vite consolée. Bien qu'ayant repoussé Molière, elle n'était pas cruelle. Ce jour-là, elle avait eu une fantaisie de vertu dont elle se repentit beaucoup plus tard. Alors elle était à la mode et les plus galants et les plus riches de la cour se disputaient ses faveurs qu'elle ne donnait pas à ce qu'assurent quelques contemporains. Reine de tragédie au théâtre, elle jouait à la ville le rôle de grande dame et elle le jouait avec succès car on l'avait surnommée la marquise et c'est sous ce nom que nous la retrouvons dans les manuscrits de Conrart. Un seul fait dira les charmes de sa figure et de son esprit. Elle fut aimée des quatre plus beaux génies du siècle de Louis XIV. Elle vit tour à tour à ses pieds Molière, Corneille, La Fontaine et Racine. C'est à Rouen, en 1658, que Corneille rencontra Mademoiselle du Parc. Le cœur du vieux poète avait toujours 20 ans, il fut pris d'une passion soudaine et violente pour la belle comédienne. Repoussé, son amour timide se dépendit en vers, et c'est pour la Duparc qu'il soupira ces tendres strophes qu'on est tout surpris de trouver sous la plume de ce mâle et fier génie.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Cependant j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps. Vous en avez qu'on adore. Mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore quand ceux-là seront usés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent si doux et dans 1000 ans faire croire ce qu'il me plaira de vous. Chez cette race nouvelle où j'aurai quelque crédit, vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurais dit. Pensez-y, belle marquise. Quoiqu'un grison fasse effroi, il ou bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. »
Ces rimes amoureuses ne touchèrent aucunement le cœur de la marquise du Parc. Il lui fallait des preuves d'amour plus parlantes. Elle dut même trouver fort impertinent ce vénérable adorateur qui lui rappelait ainsi brutalement qu'elle aussi deviendrait vieille. Corneille n'avait pas pris là le bon chemin, mais on sait qu'en amour, l'adresse n'était pas son fort. Cependant, ses conseils ne furent pas sans influence sur l'avenir dramatique de la du Parc. Le premier, il lui fit remarquer, non sans bonne raison, que la troupe de Molière était très inférieure dans la tragédie et qu'ainsi, elle devait toujours être sacrifiée, elle qui excellait surtout dans le genre tragique. Cette semence d'ingratitude devait porter fruit. Plus jeune et plus adroit, Racine fut écouté de la belle dédaigneuse. Il fut tout à elle avant d'être tout à la Champmeslée, la dévotion ne l'avait pas prise encore. Ce choix ne témoigne pas en faveur de l'intelligence de la du Parc. Racine, le grand poète, avait un misérable caractère. Il s'empressa de se servir de l'influence qu'il avait sur sa maîtresse pour l'enlever à la troupe de Molière et la faire entrer au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Déjà, bien des fois, Molière avait eu à se plaindre de Racine, mais toujours il avait pardonné. Après ce dernier trait, l'auteur d'Andromaque n'osa plus se montrer chez son ami, qui avait été son bienfaiteur, et la rupture fut complète. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne ne profita pas longtemps des talents de Mademoiselle du Parc. Elle mourut le 11 septembre 1668, un an après sa trahison. Robinet a décrit ses funérailles. L'Hôtel de Bourgogne est en deuil. Depuis peu, voyant au cercueil son Andromaque si brillante, si charmante et si triomphante, autrement la belle du Parc, par qui l'amour tirait de l'arc sur les cœurs avec tant d'adresse. Cloton, sans yeux et sans tendresse, pour les plus accomplis objets comme tous les plus imparfaits, et qui n'aime pas ce théâtre dont tout le monde est idolâtre, nous a ravi cette beauté dont chacun était enchanté, alors qu'avec un port de reine elle paraissait sur la scène, et tout ce qu'elle eut de charmant gît dans le sombre monument. Elle y fut, mercredi, conduite avec une nombreuse suite, dont étaient les comédiens, tant les Français qu'Italiens, les adorateurs de ses charmes qui ne la suivaient pas sans larmes, quelques-uns d'eux, incognito, qui, je crois, dans leur memento, auront de la belle inhumée, fort longtemps, l'image imprimée. Item, mains différents amours affublés de sombres atours qui, pour le pas, semblaient se battre. Item, les poètes de théâtre, dont l'un, le plus intéressé, semblait à demi trépassé. Item, plusieurs peintres célèbres. Il y a encore au moins 100 vers de cette force-là. Une fois lâché, ce robinet ne tarissait pas. Mademoiselle de Brie, 1706. Grimarest, on ne sait pourquoi, prétend que Mademoiselle de Brie était fort laide, maigre comme un squelette et n'avait pas le sens commun. Heureusement pour l'ami de Molière, trois de ses portraits venus jusqu'à nous et les témoignages des contemporains sont d'accord pour démentir très catégoriquement cette singulière assertion. Grande, bien faite, gracieuse, elle avait une jolie figure qu'éclairait de beaux yeux tremblants. L'incertitude de son regard, dit un de ses admirateurs, donne à sa physionomie un charme de plus. Son esprit était solide, s'il n'était ni très vif ni très brillant, et son jugement était sûr. Elle avait une mémoire heureuse, très ornée, et sa conversation était des plus agréables. Enfin, elle parut à Molière, qui s'y connaissait, digne de représenter les jeunes amoureuses qu'elle jouait comme personne. Toutes ses créations obtinrent un très légitime succès et on applaudit successivement Lucile du dépit amoureux, Climène des fâcheux, Éliante du misanthrope, Marianne de l'avare et de Tartuffe et Armande des femmes savantes. De toutes les femmes aimées par Molière, Mademoiselle de Brie est peut-être la seule qui comprit et aima sincèrement ce grand homme. Lorsqu'il vint à elle, repoussée par la du Parc, elle ne songea ni à se faire valoir, ni à irriter sa passion naissante par une résistance calculée, elle se donna entièrement. Atteinte au cœur, profondément blessée dans son amour-propre, le jour où Molière l'abandonna pour Armande, elle sut cependant prendre son parti et resta l'amie de son ancien amant. Molière savait, à n'en pas douter, qu'il pouvait compter absolument sur le dévouement de Mademoiselle de Brie. Aussi est-elle sa confidente, c'est toujours à elle qu'il revient. Qu'Armande le trompe, le trahisse, l'abandonne pour courir les plus tristes aventures, il retrouve l'ami fidèle qui le soutient et le console, qui panse les blessures de son cœur malade et entretient ses espérances et ses illusions. Cette constante affection, ces retours périodiques, comme les fredaines d'Armande, surprenaient les amis de Molière. Ils voulurent l'éclairer sur les défauts de Mademoiselle de Brie. « Certes, elle a des défauts, répondit Molière, tout le monde en a, mais je connais les siens, j'y suis accoutumé, et il faudrait que je prisse trop sur moi pour m'accommoder des imperfections d'une autre. Je n'en ai ni le temps ni la patience. » Une fois marié, Molière continua à garder Mademoiselle de Brie près de lui. Ce fut une faute grave et qu'on ne comprend guère de la part de ce génie qui connaissait si bien tous les secrets de la passion. En éloignant son ancienne maîtresse, il ne changeait pas le caractère de sa femme, mais il lui ôtait un prétexte dont elle se servit souvent. Mademoiselle de Brie avait un mari. C'était un joueur, un ivrogne et surtout un bretteur déterminé, en un mot, un sacripant achevé. Molière, qui ne l'aimait pas, l'engagea uniquement à cause de sa femme. Mais, habile à tirer parti de tout, il écrivit pour ce capitaine de cabaret des rôles qu'il jouait au naturel. Il fit pour lui Sylvestre des Fourberies de Scapin, l'arapière du dépit amoureux et le maître d'armes du bourgeois gentilhomme. En 1685, le 14 avril, Mademoiselle de Brie donna sa dernière représentation. Elle avait 65 ans. Elle se retirait avec une pension de 1000 livres. On ne sait rien de ses dernières années. Elle mourut en 1706. Mademoiselle de Brie fut, au théâtre, la plus parfaite des ingénues. Le rôle d'Agnès, ce type inimitable des ingénues, resta la plus belle de ses créations et son triomphe. Comme Ninon de l'Enclos, comme 3 ou 4 comédiennes favorisées, elle garda jusqu'à ses dernières années les grâces et la fraîcheur de la jeunesse, et à 60 ans, elle était encore la plus jeune et la plus adorable des Agnès. Lorsqu'elle n'avait encore que 50 ans, ses camarades l'engagèrent à céder ce rôle à une jeune et jolie débutante, Mademoiselle du Croisy. Elle consentit, mais non le public. Lorsque parut la nouvelle Agnès, la salle entière se souleva et, à grands cris, demanda l'ancienne. Il fallut aller la chercher. Elle vint et, comme on ne lui laissa pas le temps de prendre son costume, elle joua en habit de ville et fut couverte d'applaudissements. Le lendemain, on fit pour elle ce galant quatrain. Il faut qu'elle ait été charmante, puisqu'aujourd'hui, malgré les ans, à peine des attraits naissants égalent sa beauté mourante. Marotte Beaupré. Elle tenait l'emploi des troisièmes rôles dans le tragique et des ridicules dans le comique. Ainsi s'expliquent ses créations si étrangement diverses. Après avoir représenté une des sœurs de Psyché dans l'opéra-ballet de ce nom, elle joua d'original la comtesse d'Escarbagnas. Mademoiselle Beaupré était un enfant de la balle. Elle était fille et nièce de comédiens, elle était née dans la coulisse entre deux portants. Une de ses tantes, nommée aussi Marotte, est célèbre par son avis sur les pièces du grand Corneille. « Monsieur de Corneille, disait-elle, a fait le plus grand tort aux comédiens. Nous avions avant lui de très bonnes pièces de théâtre qu'on nous faisait en une nuit pour 3 écus. On y était accoutumés, tout allait bien et nous gagnions beaucoup. Présentement, le public est devenu difficile, les pièces de Monsieur Corneille coûtent beaucoup et nous gagnons peu de choses. » La Marotte Beaupré de Molière était très jolie, bien faite, avenante et pucelle par-dessus, ajoute Robinet. Ce gazetier ne doute de rien. Elle était vive et peu endurante. On raconte que, s'étant prise de querelle avec une autre actrice nommée Catherine des Urlis, elles mirent l'épée à la main et se battirent après la petite pièce. La des Urlis fut blessée au cou. Entrée dans la troupe de Molière en 1669, Marotte Beaupré se retira en 1672 avec une pension. Mademoiselle Beauval, Jeanne-Olivier Bourguignon. 1620. Il y avait une fois l'histoire de la Beauval à tout l'air d'un conte, un directeur de troupe ambulante qui avait fait vœu d'adopter un enfant. Ce comédien directeur courait la Hollande lorsqu'il rencontra la petite Jeanne qui allait avoir 10 ans. Abandonnée par ses parents, exposée à la porte d'une église, elle avait été recueillie et élevée par une pauvre blanchisseuse. L'enfant plut à Philandre qui, du consentement de la blanchisseuse, la prit avec lui. Elle était vive, spirituelle. Son père adoptif en prit un soin tout particulier et, comme elle avait un goût très marqué pour le théâtre, il lui confiait divers petits rôles dont elle se tirait à merveille. De retour en France, Philandre donnait des représentations à Lyon lorsque notre directeur, Monchinge, dit Paffetin, vit jouer la jeune Bourguignon. Il lui trouva du talent et lui proposa de beaux appointements si elle voulait entrer dans sa troupe. Ingrate comme une grande personne, la petite fille accepta et quitta Philandre sans regret. Bientôt, Paffetin devint amoureux de sa nouvelle recrue et lui offrit de devenir sa femme. Elle refusa. D'un caractère entier, elle craignait de se donner un tyran. Mais dans cette troupe se trouvait un homme d'une simplicité admirable, nommé Beauval. Modeste était son emploi, il mouchait des chandelles. C'est sur lui que la demoiselle Bourguignon jeta les yeux. Ce gagiste naïf lui parut taillé pour l'état de mari obéissant. Ils convinrent donc de s'unir. Ces noces n'étaient pas du goût du directeur. Il s'y opposa. Il parvint même à obtenir de l'archevêque de Lyon un ordre qui défendait à tous les curés du diocèse de marier les deux jeunes gens. Heureusement pour Beauval, la Bourguignon n'était pas fille à être embarrassée pour si peu. Elle trouva vite un moyen pour lever tous les obstacles. Un dimanche matin, elle se rendit à sa paroisse, accompagnée de Beauval, qu'elle fit cacher sous la chaire où le curé faisait le prône, et lorsqu'il eut fini, elle se leva et déclara qu'en présence de l'église et des assistants, elle prenait Beauval pour son légitime époux. L'heureux moucheur de chandelles sortit alors de sa cachette et dit également qu'il prenait la demoiselle Bourguignon pour légitime épouse. Après cet éclat, on fut bien forcé de les marier. Au moins, ils furent heureux. Beauval garda religieusement son vœu d'obéissance passive et sa femme lui fut toujours fidèle, ou à peu près. Un an après ce mariage, Molière, ayant vu Mademoiselle Beauval, obtint un ordre du roi pour la faire passer à son théâtre. Elle débuta à Chambord, mais elle eut le malheur de déplaire à Sa Majesté, qui fit dire à Molière de donner à une autre le rôle de Nicole du bourgeois gentilhomme qui lui était destiné. Molière, qui comptait sur le talent de Mademoiselle Beauval, prit un détour pour se dispenser d'obéir. Il représenta au roi qu'ayant fort peu de jours devant lui, jamais il ne pourrait faire apprendre le personnage. Puis il remania le rôle et l'adapta si merveilleusement à la physionomie de l'actrice qu'elle n'avait, pour être admirable, qu'à garder son naturel. C'est ce qu'elle fit et elle joua si bien Nicole que Louis XIV, revenu de ses préventions, dit à Molière qu'il recevait sa nouvelle actrice. Maître Robinet ne manque pas de signaler les débuts de la jeune comédienne. On voit depuis peu la Beauval, actrice d'un rare mérite, qui, de bonne grâce, récite, ainsi qu'avec jugement, et qui, bref, est un ornement des plus attrayants de la scène. C'est une vérité certaine. La Beauval n'était pas jolie, mais elle était grande et bien faite. Elle jouait passablement les reines, mais elle excellait dans l'emploi des servantes, et Molière lui confia toujours ses Nicole et ses Toinette. Sa voix naturellement aigre disait son caractère. Elle était violente, acariâtre, emportée, tout à fait insupportable. Elle avait assez d'esprit, mais nulle éducation. Elle connaissait à peine ses lettres et ne pouvait lire que l'écriture de son mari, qui lui copiait ses rôles et les lui apprenait. Pour Beauval, il était l'incarnation de la patience et aima toujours sa femme. De moucheur de chandelle, il était devenu acteur et, entre les mains de Molière, un excellent acteur. Il n'avait pas son pareil pour jouer Thomas Diafoirus. Assidue au théâtre, Mademoiselle Beauval ne demanda jamais un jour de congé pendant ses 34 ans de service. Elle ne s'absentait que pendant ses couches, c'est-à-dire une fois par an à peu près, car elle eut 24 enfants. Un coup de tête lui fit prendre sa retraite en 1704. Elle avouait 73 ans lorsqu'elle mourut le 20 mars 1720. Pendant ces dernières années, elle avait été employée par Madame la Duchesse du Maine pour aider à organiser les divertissements de Sceaux. Mademoiselle du Croisy, Marie Claveau. On ne la voit guère que dans l'impromptu de Versailles. Elle avait si peu de talent que Molière trouva rarement l'occasion de l'employer. Si elle se maintint dans la troupe, si elle eut part entière à une certaine époque, elle ne le dut qu'à son mari, cet acteur si parfait qui eut la gloire de créer le rôle de Tartuffe. Marie Claveau appartenait à une excellente famille du Poitou, alliée à M. de Landas, lieutenant de La Rochelle. Un roman d'amour qui finit assez mal la conduisit au théâtre. À défaut de talent, elle avait une grande beauté. Sa fille, Marie-Angélique du Croisy, née en 1658, débuta dès 1671. Elle avait du talent. C'est elle qui avait essayé de remplacer Mademoiselle de Brie dans le rôle d'Agnès. Le public redemanda son ingénue favorite et cependant, Mademoiselle du Croisy avait pour elle, dit un quatrain, trop vert pour être cité, une taille mignonne, de l'esprit, la bouche belle et beaucoup d'enjouement. Elle épousa, quelque temps après ses débuts, l'acteur Poisson. Elle prit sa retraite en 1694 et mourut le 14 décembre 1756. On doit à Mademoiselle Poisson du Croisy de précieux détails sur Molière et sur sa troupe, et on a souvent cité ses lettres sur la vie et les ouvrages de Molière, insérés en 1740 dans le Mercure de France. Mademoiselle de Lagrange, Marie Raguenaud. 1600-1727. Mademoiselle Raguenaud était-elle femme de chambre de Mademoiselle de Brie? Était-elle receveuse au bureau? On ne sait trop. Toujours est-il que fantaisie lui prit de jouer aussi la comédie et, un beau soir, elle parut sur la scène. Elle n'eut jamais qu'un très mince talent. Elle aborda rarement la tragédie et, dans le comique, elle ne remplissait au gré du public que les rôles comiques, les charges, comme on dirait aujourd'hui. Elle eut cependant du bonheur. Lagrange, le comédien excellent, l'honnête homme, l'ami de Molière, l'épousa le lundi 25 avril 1672. À la mort de Molière, elle passa au théâtre Guénégaud et joua jusqu'en 1692. Elle se retira alors avec une pension de 1000 livres et mourut le 3 février 1727. Mademoiselle Lagrange était fort laide et cependant, elle ne demandait pas mieux que d'être coquette et galante. C'est pour elle qu'on fit cet épigramme. Si, n'ayant qu'un amant, on peut passer pour sage, elle est assez femme de bien, mais elle en aurait davantage si l'on voulait l'aimer pour rien.